C'est la séquence donc du jardinier de Versailles. Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour Patricia,
bonjour, Alain.
Bonjour à tous.
Alors, pas de couronne de laurier pour Donald Trump après son départ de la Maison Blanche.
Et oui, à ce sujet, les premières couronnes de laurier auraient été décernées du temps d'Alexandre le Grand. Il est né en, je crois, 356 avant Jésus-Christ. Pour récompenser les actions héroïques, les Romains vont eux aussi en poser sur le front des vainqueurs, une tradition qui plaît à Napoléon Ier et qui depuis n'a jamais disparu.
Et de nos jours, on n'offre plus de laurier aux personnes méritantes.
Détrompez-vous, tous les ans en France, des centaines de milliers de jeunes se voient décerner le baccalauréat. Bacca en latin désigne le fruit du laurier et lauréat vient de laurus, le nom botanique du laurier. Baccalaureus, baccalauréat, comme vous le constatez, la tradition existe toujours.
Pas de couronne donc pour Trump et pas de palme non plus.
Pourtant, il en méritait, et en particulier celle du Camaïdora elegans, un petit palmier originaire du Mexique, qui produit les feuilles connues de tous car ce sont elles que l'on retrouve chez les fleuristes pour la décoration florale et la confection des couronnes mortuaires.
Et pourquoi le choix de ce palmier est si important?
Alors déjà, sachez qu'il existe des centaines de variétés de palmiers, et là je veux vous parler de Donald Trump et son rapport à l'argent. Si j'évoque le Camaïdora elegans, c'est pour sa palme utilisée aujourd'hui pour la fabrication des dollars. Sa sève entre grandement dans la composition de la substance qui teinte le billet de banque, car elle reproduit à l'identique sa couleur verte, et il s'avère qu'utiliser cette sève est bien plus pratique et surtout moins coûteux que les techniques employées auparavant.
Alors, combien et à qui les Américains commandent-ils des palmes?
Au Mexique, et près de 600 tonnes par an. Le comble dans cette histoire, c'est l'acharnement de Donald Trump pour ce mur payé avec des dollars fabriqués en partie grâce aux Mexicains, des Mexicains à qui on interdit de franchir ce mur.
Merci Alain Baraton, et à présent vos conseils aux auditrices.
Ah, j'ai eu peur, je croyais que vous alliez le congédier tout de suite.
Ah, pas du tout. Non, mais pour quelle raison? Non, tout de suite les conseils.
On attend un petit peu.
Les bons tuyaux d'Alain Baraton avec cette question d'Elsie. Il y a du lichen depuis 2 ans sur le groseillier à maquereaux dans mon jardin. La fructification n'en souffre pas. Mais cet hiver, le groseillier est complètement recouvert. Doit-on enlever le lichen du groseillier?
Dans ce cas précis, le lichen n'est pas une menace pour l'arbuste, mais l'excès d'humidité, oui, car ce lichen atteste qu'il y a quand même beaucoup trop d'humidité. Il est vrai que les groseilliers, on les met souvent dans un jardin, dans l'endroit un petit peu le moins ensoleillé, un petit peu à l'ombre. Alors c'est peut-être l'occasion de tailler le groseillier, peut-être l'occasion également de gratter la terre au sol. Je suis persuadé qu'il y a comme une sorte de petite, comme des champignons blancs qui sont en train de s'installer. Il faut surtout arrêter d'arroser, mais en réduisant un petit peu la ramure en taillant donc le groseillier, on va permettre au soleil de davantage intervenir dans ce coin, de réchauffer l'ensemble. Parce que comme je le dis, si le lichen n'empêchera pas le groseillier à maquereau de fleurir, j'adore les groseilliers à maquereau, c'est assez amusant comme arbuste. Mais il faut donc là vraiment quand même limiter la propagation et l'excès de lichen, car là il y a vraiment un problème d'humidité.
Et pareil pour le lierre, même question d'Elsie, du lierre pousse sur ses hortensias, est-ce qu'il finira, ce lierre, par étouffer l'hortensia?
Si vous ne faites rien, pourquoi pas, peut-être, l'avenir vous le dira, mais très franchement, je n'ai pas encore connu une seule fois un arbuste envahi par le lierre en une nuit. Vous avez un massif d'hortensias, de rhodos ou de rosiers, vous avez du lierre qui pousse à proximité, puis un matin vous vous réveillez, nom d'un chien, vous vous dites, le lierre a recouvert mes plantes cette nuit. Non, un jardin, c'est de l'entretien. On n'attend pas que la situation soit incontrôlable pour réagir. Tous les jours, déjà, c'est très bon pour le physique, c'est très bon pour le moral. Un petit peu de jardinage, donc.
Il n'est qu'à vous voir.
Je vous remercie du compliment. Et donc, non, il n'y a pas de danger pour les hortensias.
Question de Dominique. Que pensez-vous de l'usage du gravier végétal à la place des écorces de pin dans le jardin?
Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui le gravier végétal, ce sont une substance qui est fabriquée à partir de noyaux de pêche et d'abricots. C'est en fait, c'est ces noyaux qui sont concassés, qui remplacent le paillage habituel et qui, effectivement, ont donné une apparence assez agréable. Déjà, il y a un confort. Quand vous avez une allée avec ces noyaux de pêche et d'abricots, vous marchez confortablement. Ça réduit effectivement les besoins en eau sur un massif. Ça a l'avantage de ne pas développer de poussière. Donc j'aime bien cette idée. Comment cela vieillit-il? Je ne sais pas. Très honnêtement, dans quel état ces noyaux seront-ils dans 10 ou 15 ans? Impossible pour moi de vous répondre. Mais dans une utilisation régulière pour des allées, pour des massifs, je trouve ça relativement intelligent.
Ludwig vous demande à propos de son jasmin de Madagascar. Il a de belles fleurs, mais il ne sent rien. Pourquoi ?
Et bien là, c'est une question un peu piège. Parce que cette plante qui est le jasmin de Madagascar, c'est vraiment une très belle plante grimpante, une plante merveilleuse qui, en temps normal, sent délicieusement. Je peux vous parler de sa reproduction sans aucun problème, de son bouturage. En août, je pourrais vous parler de son semis. Au printemps, je pourrais vous dire que c'est une plante qui, en pot, à peine vous la bougez, la plante meurt. Elle est extrêmement délicate. Pourquoi ces fleurs à elles ne sentent-elles pas ? Eh bien, je ne sais pas. Pourquoi certains rosiers dégagent des senteurs incroyables quand les mêmes variétés à côté n'en dégagent pas ? Je ne sais pas. Bon. Pourquoi vos prunes ou vos pommes sont meilleures que celles de votre voisin ? Je ne sais pas. C'est le mystère de la vie. On ne sait pas toujours pourquoi.
Et quand on ne sait pas, il faut aussi savoir le dire.
Et ben, tout
très
à fait.
Bien, absolument. Camille, à propos de son grand-père, il y avait dans son jardin des rosiers. Il les avait créés en faisant des greffes. Ses enfants et petits-enfants aimeraient bien les replanter, ces rosiers, les replanter chez eux. Comment faire ? Pouvons-nous faire encore des boutures ?
Ben déjà, c'est une très belle idée. On déplace effectivement les rosiers de grand-papa et on emmène avec un petit peu de cette personne que l'on a aimée. On le fait maintenant, on n'hésite pas à retirer le maximum du rosier sous terre, donc le maximum de racines. Au moment de la replantation, on habillera les racines, ce qui signifie que l'on va vraiment les rafraîchir et les couper. On arrosera copieusement et on les replantera. Oui, oui et re-oui, les boutures de rosier fonctionnent très bien. C'est même la meilleure méthode pour reproduire à l'identique un rosier. Le rosier du papa ou du grand-papa était sublime, la bouture le sera tout autant, donc oui à toutes les questions.
On termine avec un dernier conseil.
Le livre du climat, tout ce que vous devez savoir en 50 infographies, on en parlait au journal justement des réchauffements, et bien ça tombe bien, c'est aux éditions Plume de Carotte que Esther Gonzala a eu l'idée de réaliser 50 infographies très bien faite sur les conséquences de l'évolution du climat. Donc c'est publié, je le rappelle, chez Plume de Carotte.
Qui est un très bon éditeur.
Merci, tout à fait. Alain Baraton, et à demain.
À demain.